Et ce soir, on a procédé un petit peu à l'envers, là. On a parlé de Joseph. Ensuite de ça, on a parlé de son père Jacob. Puis là, on va parler d'Abraham. C'est le grand-père de Jacob. C'est qu'on va regarder quatre étapes ce soir dans la vie d'Abraham. Puis pour ce faire, on va lire dans Hébreux, au chapitre 10, ces quatre étapes qu'Abraham a vécues dans sa vie. Chapitre 10, il dit. Au chapitre 11 d'Hébreux, excusez, Hébreux 11 et au verset 10. On va lire verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On va lire les versets 12. Le verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Ensuite, on va lire les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Et aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Fait qu'on va s'arrêter là pour la lecture de la parole. On va peut-être demander au Seigneur de nous aider dans cette étude. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est tellement abondante pour nous, Seigneur, qui a tellement de leçons pour nous à apprendre. Et Seigneur, on en fait nos délices d'être à tes pieds pour apprendre ces choses. Seigneur, on te demande de nous garder, de nous diriger ce soir dans ta parole et donne-nous, Seigneur, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir grandir dans la foi puis dans le service pour toi. On te remercie pour toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand même, Abraham prend plusieurs versets dans la liste des hommes de la foi, des personnes de la foi dans Hébreux. Donc, mais ce que je voudrais regarder ce soir, c'est quatre étapes dans la vie d'Abraham. C'est des étapes qui sont aussi pour nous dans notre vie, des étapes qu'on doit franchir. Puis Abraham, il a franchi ces étapes-là, puis c'est un exemple pour nous autres. La première, c'est il abandonne tout pour Dieu. Donc, Abraham, dans le verset 8, on a vu, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, Abraham abandonne tout pour Dieu. Le deuxième point, c'est Abraham abandonne tout à Dieu. Dans le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc, il abandonne tout à Dieu, même dans la terre que Dieu lui a promis de lui donner. Il est comme un voyageur, il est dans une terre étrangère. Puis il habitait sous des tentes, il s'en remettait complètement à Dieu. Dans les versets 10 et 12, on voit qu'il trouve tout en Dieu. Versets 10 et 12, il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Après ça, au verset 19, il cède tout à la volonté de Dieu. Verset 17-19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac et lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, on va commencer par le premier point, c'est il abandonne tout pour Dieu. Pour le salut, c'est certain qu'on a un choix à faire. Ou bien on continue avec les choses qui sont dans le monde, ou bien on abandonne pour se tourner vers le Seigneur pour recevoir son salut. Puis la question vraiment qui est à se poser, c'est les gens qui abandonnent tout pour le Seigneur, tout pour avoir Dieu, pour avoir le salut, mais c'est parce qu'ils comptent que le salut de Dieu est plus important que toute autre chose qu'on pourrait avoir dans ce monde. Puis on sait que c'est une question. Il y a beaucoup de gens qui, en regardant l'Évangile, ils calculent le pour et le contre, puis ils retournent dans le monde, ils retournent dans leur situation. Ils peuvent avoir une situation qui les va les garder de se tourner vers le Seigneur Jésus pour être sauvés. Puis ils vont continuer dans le monde comme avant. Mais ceux qui acceptent le salut de Dieu, eh bien, comme Paul a pu le dire dans Philippiens 3, il dit toutes ces choses qui étaient pour moi un gain en parlant de ces avantages religieux qu'il avait. Il avait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui descend. Les gens, ils calculent que le Seigneur vaut plus que n'importe quoi qu'ils ont dans leur vie. Puis, Paul avait, lui, tous les avantages religieux qu'il avait, il les a regardés comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il avait, pour lui, c'était devenu comme de la boue, tandis qu'est-ce que le Seigneur lui offrait, c'était l'excellence. C'est sûr, parce que le Seigneur nous offre le salut de nos âmes à cause de la foi qu'on met en lui. Et c'est toujours ça la question. Est-ce que le salut vaut mieux que n'importe quoi d'autre dans notre vie? Puis on pense, comme dans le verset 8, Abraham, lui, il a laissé le lieu où il était. Puis pour ce faire, ben, c'est sûr il a laissé sa famille, il a laissé des possessions, il a laissé des amis pour s'en aller dans une nouvelle vie qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie qu'on n'avait pas connue auparavant, mais on s'engage dans cette vie-là avec le Seigneur parce qu'on considère que cette vie-là vaut plus que tout ce qu'on pourrait avoir avant dans le monde sans lui. Ça prend la foi pour faire ça. Il faut vraiment croire à ce que le Seigneur dit. Il faut vraiment croire qu'on a besoin d'être sauvé. Plus que toute autre chose au monde, on a besoin d'avoir le salut de Dieu. Puis c'est ça qui va nous faire en sorte qu'on va abandonner toute chose pour avoir le salut de Dieu. Ça, c'est le début d'une relation avec le Seigneur. On va voir, peut-être on va aller dans Genèse 12, on va se référer à Genèse tout au long de cette étude, dans les situations ici dans Lévitique qui nous rapporte ces choses-là. Mais on va aller les voir on va voir quand Abraham a tout abandonné pour Dieu. Dans le chapitre 12 de la Genèse, on va garder notre doigt dans Hébreux 11, puis on va aller voir dans le verset 1 de la Genèse au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Puis c'est là que, après ça, il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Puis là, Abraham, il est parti pour aller poursuivre l'appel du Seigneur. Il a tout laissé. Qu'est-ce qu'il y avait auparavant, il l'a laissé. Peut-être on va aller dans acte 7, au verset 2-4. Acte 7, on sait que c'est lorsque Étienne a raconté il a fait un résumé de l'histoire d'Israël au chef religieux avant qu'il le lapide. C'est un long chapitre, mais c'est un chapitre intéressant. On nous dit dans acte 7, au verset 2 à 4, il dit, Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Donc, on voit ici que le Seigneur, il l'a appelé à partir d'où il était pour une destination tellement différente. On pense à ces choses, à ce que Dieu lui a promis. Vous savez, il y a une place dans le continent de l'Amérique, que ça s'appelle l'endroit où l'eau se divise. C'est une hauteur. Puis, à partir de là, il y a des eaux qui s'écoulent vers l'océan Atlantique, puis il y a des eaux qui s'écoulent vers l'océan Pacifique. Donc, ça, c'est là que l'eau se divise. Puis c'est étonnant quand on voit, il peut y avoir deux gouttes d'eau. Puis même dans le parc de la Gaspésie, quand on commence à traverser le parc, il y a une rivière, la rivière Cascapédia, qui coule vers le sud. Puis à un moment donné, quand on monte au-dessus des montagnes, qu'on commence à aller de l'autre côté, il y a une autre rivière, la rivière Sainte-Anne, qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Une se déverse dans la baie des Chaleurs, puis l'autre se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Et quand on pense à deux gouttes d'eau qui peuvent tomber une à côté de l'autre, puis une part vers le sud, puis l'autre part vers le nord. Mais ils sont tellement proches à ce moment-là, mais quelle différence dans la destination. C'est ça un peu qu'on voit dans le salut que le Seigneur nous offre. On voit que on est prêts, on est tous ensemble, on est tous sous la condamnation de Dieu, mais puis à un moment donné, quand on choisit le salut de Dieu, quand on reçoit le salut de Dieu, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on part dans une destination, vers une destination tellement différente, au point que pour les uns, ce sera la ruine éternelle, les temps de feu, tandis que pour ceux qui ont reçu le salut de Dieu, ça va être dans la félicité éternelle, dans la présence du Seigneur. Puis ça, on voit ça constamment hein, dans la parole de Dieu. On voit les deux brigands qui étaient à côté du Seigneur Jésus, un d'un côté, l'autre de l'autre, et qu'ils étaient tout près, les deux, ces deux bandits pareils, deux brigands, mais un est allé dans une destination tellement différente de l'autre. Et quand il a demandé au Seigneur, il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, ayant reconnu son péché. Il s'est tourné vers le Seigneur, puis le Seigneur lui a donné la vie éternelle, lui a fait la promesse qu'aujourd'hui même, il serait avec lui, de cette journée-là même, il serait avec lui dans le ciel. Donc, quand on pense à ça, c'est toute une différence, hein, quand on regarde les deux destinations, là. Un, ils sont tout près l'un de l'autre, mais un va finir dans l'éternité avec le Seigneur, tandis que l'autre va finir dans les temps de feu. Puis, nous autres, pour avoir le Seigneur Jésus, pour avoir le salut, il fallait laisser ce qu'on était en Adam. En Adam, on était des hommes perdus, des femmes perdues, on était des pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on a connu le salut qui nous a été offert gratuitement par le Seigneur, eh bien, on a choisi cette place-là, ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire. Donc, on a laissé ce qu'on était en Adam, sous le jugement, pour être ce que nous sommes en Christ maintenant. Ce qu'on est en Christ, c'est qu'on est des enfants de Dieu, on appartient au Seigneur, puis on a pour destination la vie éternelle. Donc, Abraham a laissé ce qu'il était avec une destination qu'on ne connaîtra jamais. Qu'est-ce qu'il était? On ne peut pas connaître cette destination parce qu'il a laissé cette destination-là pour suivre le Seigneur Jésus. Mais il a pris un chemin qu'on connaît très bien parce que la parole de Dieu nous donne vraiment de connaître la destination d'Abraham avec toute la promesse que Dieu lui a faite de lui donner une postérité, de lui donner un pays, et non seulement un pays, mais aussi une postérité qui va peupler le ciel. Juste Jacques 2, 23, je veux juste vous dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de tourner. Il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc, c'est tout un privilège pour Abraham d'avoir été appelé l'ami de Dieu. On voit la vocation, son appel, dans chapitre 11 d'Hébreux, au verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 14 nous dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc, c'est ça qui est arrivé. Abraham cherchait une patrie, puis Dieu lui a donné cette patrie-là. Puis, c'est parce qu'il a laissé ce qu'il était en lui-même, pour prendre ce que Dieu lui offrait, de laisser toute sa famille, tout ça, pour aller dans une terre que Dieu lui avait promis de lui donner en héritage, puis aussi lui avait promis une postérité. Donc, c'est comme le salut pour nous autres quand on a laissé tout. Il y a bien des choses qu'on a mis derrière nous pour pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Puis il nous a donné, lui, la vie éternelle. Puis c'est vrai qu'on va avoir une patrie. On est des citoyens, des concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Puis c'est notre destinée éternelle. Il n'y a rien qui peut changer ça. C'est le Seigneur qui l'a garanti par son œuvre qu'il a fait pour nous à la croix. Maintenant, on arrive au deuxième point, c'est Abraham abandonne tout à Dieu. Oh, puis c'est comme ça, Abraham, même dans la terre de la promesse, il dit au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc, ils ont habité dans le pays, mais le fait qu'ils habitaient dans des tentes, vous savez, c'est comme une tente, c'est pas une demeure permanente. Ils n'ont pas construit des châteaux, ils ont demeuré dans des tentes. Ils étaient voyageurs, ils voyageaient dans le pays. Donc, ils étaient comme des étrangers dans le pays. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, c'est qu'ils renoncent à ses droits pour suivre Dieu. Donc, puis nous autres, on est des étrangers aussi, des étrangers, des voyageurs sur la terre aussi. On renonce à nos droits ici sur la terre parce qu'on a une cité qui est dans le ciel. C'est ça, vivre par la foi. Ne pas réclamer rien, de s'attendre complètement à Dieu. C'est ce qu'Abraham faisait aussi. Donc, il accepte d'être un étranger puis un voyageur. Il accepte de vivre comme ça. Vous savez, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus confortable d'être comme un voyageur puis un étranger. Mais Abraham accepte ça. Il abandonne tout à Dieu. Il s'en remet à lui dans sa vie. Puis nous autres aussi, on doit. Le Seigneur nous parle de renoncer à soi-même. Quand on renonce à soi-même, on ne réclame aucun droit pour nous autres-mêmes. Puis, c'est de faire mourir le moi, là. Parce que le moi va toujours être un obstacle pour suivre le Seigneur. Le Seigneur nous dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne prend pas sa croix, n'est pas digne de moi. Donc, le moi va toujours être un obstacle pour le service, pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit renoncer à nous-mêmes. Ceux qui ont abandonné la marche pour le Seigneur, ben, c'est toujours à cause du moi. C'est le moi, on a été blessé, il y a eu quelque chose d'injuste envers moi, on n'a pas été bien traité. Puis ça, c'est comme ça les gens s'en vont parce qu'ils n'ont pas renoncé au moi. C'est pour ça que le Seigneur dit, si on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne peut pas être son disciple. C'est important. On voit que dans Genèse 13, on va aller dans Genèse 13. On voit ici comment Abraham même renonçait à tout ce qu'il réclamait rien pour lui-même. Dans Genèse 13, les versets 5 à 9, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On voit vraiment ici que dans le conflit, Abraham réclame rien. Abraham est prêt à tout abandonner. Il abandonne tout à Dieu, il se remet entre les mains de Dieu, il réclame rien pour lui-même. On voit que dans le verset 8, c'est lui qui prend l'initiative. Il dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Donc c'est lui qui va vers son frère, comme le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, va puis laisse-le ton offrande, puis va, puis réconcilie-toi avec ton frère. C'est important. Il veut pas qu'il y ait de dispute entre eux. Parce qu'ils sont frères. Et donc, ils voient cette relation-là avec l'autre comme importante, puis ils abandonnent tout. Ils disent, regarde, si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Tu prends ce que tu veux, puis moi, je vais prendre le reste. Donc, il prend l'initiative. Pourquoi? Ben, il nous dit, c'est parce il nous a dit au verset 7 qu'il y avait des Cananéens et des Phéréziens autour d'eux. Puis, Abraham abandonne tout à Dieu parce que le témoignage était important pour lui. Puis il dit, on ne peut pas briser le témoignage, c'est trop important. Fait que prends ce que tu veux, va à droite ou va à gauche, moi je vais prendre ce qui va rester. Mais vous savez, la foi s'en remet complètement à Dieu pour son sort. On ne réclame rien, on ne réclame pas de droit, on laisse le soin à Dieu de nous défendre. On se décharge sur lui de tous nos soucis, car lui prend soin de nous. Puis lui, on ne se défend pas nous autres-mêmes, mais quand on ne se défend pas nous autres-mêmes, Dieu va le faire pour nous autres. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, si on s'attend que Dieu va nous défendre, quand il nous défend, ben, ça revendique notre droit, ça revendique qu'on, ça nous donne, ça nous montre qu'on était dans la bonne voie, parce que le Seigneur a pris soin de nous délivrer. On voit que le Seigneur, il va prendre soin d'Abraham dans cette situation-là. Abraham abandonne tout à Dieu. Puis regardez au verset Genèse 13, verset 14 à 18. Il dit ici, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, c'est que Lot, il a choisi qu'est-ce qu'il voulait. Puis il dit, il est allé vers l'Orient. Il lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient. Oui, mais Lot n'a pas choisi ça. Mais non, le Seigneur le donne à Abraham. Il dit, l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. On voit que Abraham, il l'a abandonné, il s'est abandonné complètement dans les mains du Seigneur pour que le Seigneur, puis le Seigneur, il a donné à lui le pays. Lot a vraiment choisi Sodome et Gomorrhe qui va être détruit avec tout ce qu'il possédait, va tout être détruit. Mais Abraham, lui, il est possesseur de toutes ces choses-là. Puis il nous dit, car tout le pays que tu vois, au verset 15, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré et qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc le Seigneur a pris soin de lui. Puis il perd rien en abandonnant tout pour Dieu. Dieu va prendre soin de lui, puis Dieu va lui donner. Mais il perd rien. Mais c'est Lot qui devient perdant là-dedans. Parce que lui, il pensait choisir la bonne part, mais il n'a pas choisi la bonne part. C'est en allant vivre dans Sodome et Gomorre. Dans le chapitre 14, les versets 11 à 12, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Ils s'avançaient vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Puis Abraham, lui, habitait dans le pays de Canaan et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Puis les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, vraiment, lui a choisi la mauvaise part. Mais Abraham, ayant tout abandonné, Dieu lui donne quand même tout ce qu'il possédait. Vous savez, il y a une expression. Qui dit en anglais, on dit, ouais, t'as fait ton lit, ben là maintenant couche-toi dedans. Mais Abraham aurait pu dire ça à Lot. C'est toi qui as choisi ça. Puis quand les rois sont venus combattre contre Sodome et Gomorrhe, ils ont emporté Lot avec eux autres. Puis Lot a tout perdu ce qu'il avait finalement. Abraham est allé pour défendre Lot. Il n'a pas dit, même ayant tout abandonné pour Dieu, il prend soin. Puis on sait que quand Abraham il a entendu parler que les rois avaient venu combattre contre Lot, contre les villes, eh bien, il a pensé à son frère Lot. Dans Genèse, au chapitre 14, verset 14, il dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Puis il a délivré Lot de Zo, puis même toutes les richesses de Sodome, mais il n'a rien voulu quand le roi de Sodome a voulu lui donner des richesses. Il a dit non, il a pas voulu rien de ça parce qu'il ne voulait pas avoir les richesses du monde. Il y avait des richesses plus grandes dans le Seigneur. Mais après ça, on voit l'autre point, c'est qu'il trouve tout en Dieu. Dans les versets 10, d'Hébreux 11, verset 10, 12, il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis au verset 12, il dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc il trouve tout en Dieu. Ça fait partie de la foi. Ceux qui cherchent leurs propres intérêts, là, ils ont seulement ça. Ils ont seulement quand ils réussissent à les avoir, parce que souvent, quand on cherche nos propres intérêts, on les trouve pas toujours. Mais lui, Abraham, il va trouver tout en Dieu. Ceux qui cherchent le Seigneur en premier, là, ils vont voir toutes les autres choses par-dessus. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 12, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous comment qu'on peut se confier dans le Seigneur? On va trouver tout ce qu'on a besoin dans le Seigneur. On peut pas recevoir ces choses avant d'avoir tout abandonné à Dieu dans nos circonstances pour pouvoir vivre pour lui. Donc, c'est des étapes, une vient après l'autre. D'abord, le salut. Ensuite de ça, on abandonne tout à Dieu. Puis, on en vient dans cette intimité-là, dans cette expérience-là. La prochaine étape, c'est de trouver tout en Dieu. On peut avoir ces choses-là. Puis, on peut recevoir ces choses. On peut pas recevoir ces choses avant d'avoir tout abandonné à Dieu dans nos circonstances pour pouvoir vivre pour lui. Mais on voit que Abraham, même, il refuse les richesses que le monde peut offrir. Au chapitre 14, quand qu'il revient avec après avoir tout reçu ou avoir tout ramené les richesses de Sodome, Abraham répondit au roi de Sodome, parce que le roi de Sodome, verset 21, lui dit, Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, ni afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Donc il refuse toutes les richesses que le monde peut lui offrir parce que il a des meilleures richesses, des richesses éternelles avec le Seigneur. On pense à, il y a quelqu'un qui disait, à un chrétien qui jouit du ciel, vous pouvez offrir le monde, il le dédaigne. Quand on peut vraiment jouir du ciel, de la présence de Dieu, tout ce que le monde peut offrir, ça vaut tellement peu comparé aux joies éternelles avec le Seigneur. Abraham, lui, ce qu'il recherchait, c'était la bénédiction du Dieu Très-Haut qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Ce qu'on voit dans chapitre 14, verset 19, il dit, c'est Melchisédek, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Donc Abraham va trouver tout en Dieu lui-même, puis il veut rien de ce que le monde peut offrir. Les récompenses que le Seigneur peut nous offrir là, sont tellement au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. C'est comme tellement au-delà de ce qu'on peut penser ou s'imaginer. Au chapitre 15 de la Genèse, au verset 1, du verset 1 à 6, il dit, après ces événements, après que ces choses-là s'étaient passées, après ces étapes-là dans la vie d'Abraham, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est quelque chose quand on pense à ce que le Seigneur a offert à Abraham. C'est bien plus grand que ce que le roi de Sodome pouvait lui offrir ou ce que Lot avait choisi au lieu de qu'il avait laissé à Lot. Abraham avait tout abandonné ça, mais il trouve tout en Dieu. Il trouve tellement plus grand en Dieu. Puis c'est notre expérience à nous aussi, là. Cette récompense-là est infinie, puis est tellement au-delà de ce que Abraham pouvait s'imaginer. Je ne pense pas qu'Abraham avait pu imaginer une aussi grande bénédiction que le sapé. Je pense que l'éternité va le révéler encore. Mais dans Galates 3,16, il dit, Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voyez-vous, cette descendance-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Puis c'est lui qui, le Seigneur Jésus, qui va peupler le ciel. Quand il parlait des étoiles qui sont dans le ciel, eh bien, c'est ça. Puis, ça nous inclut, nous autres aussi. On est inclus dans cette promesse-là qui a été faite à Abraham. À Galates, au chapitre 3, verset 29, il dit, Et si vous êtes à Christ, Vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Je ne sais pas si Abraham pouvait voir jusque par la foi, parce qu'il ne pouvait pas le voir par les yeux. Est-ce qu'il pouvait voir par la foi toute l'ampleur de la grandeur de ce que le Seigneur va lui donner? Puis on fait partie, nous autres, de cette bénédiction-là. On fait partie. C'est vraiment la population du ciel. C'est ça qui est l'accomplissement de cette promesse avec tout le plan de rédemption de Dieu, parce qu'Abraham est appelé le Père de tous les croyants. Donc, sa postérité, c'est l'accès à cette rédemption-là. Mais celui qui garantit la promesse, c'est Dieu lui-même. On sait que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il avait partagé les animaux, puis Abraham a tombé dans un profond sommeil, puis il y a une fournaise ardente qui a passé au travers des morceaux. D'habitude, quand il faisait une alliance comme ça, bien, il séparait les morceaux des animaux en morceaux. Puis après ça, ils passaient tous les deux entre les morceaux des animaux pour ratifier cette entente-là. Mais là, ce n'est pas Abraham qui a passé, c'est vraiment c'est la fournaise fumante qui a passé à travers les morceaux, puis ce n'est pas Abraham. Donc c'est Dieu qui garantit toute cette promesse-là, tout ce que le Seigneur lui avait promis. Il a trouve tout en Dieu. Mais comme on l'a dit, la foi, la vie de la foi continue tout le temps. Vous savez, on est en progression dans la foi. On commence par le salut, on abandonne tout à Dieu, on trouve tout en Dieu, mais même ça va encore au-delà. Puis, vous savez, dans toute l'éternité, on ne cessera pas vraiment de jouir de plus en plus de notre bénédiction, d'avoir tout abandonné pour Dieu, puis même de tout abandonner nos circonstances à Dieu. Puis, afin qu'on puisse trouver tout en Dieu. Mais ça continue comme ça. Mais chaque étape nous rend capable de passer à la prochaine étape. Puis maintenant, on voit qu'Abraham a appris quelque chose de plus. Maintenant, dans les versets 17, 19 d'Hébreux 11, il nous est dit ici, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. On a vu ça aussi dans la vie de Jacob. Hein? Jacob qui pensait que Joseph était mort, que c'était fini, qu'il ne reverrait plus jamais. Mais par la puissance de Dieu, ben, comme une préfiguration, Jacob a retrouvé Joseph, puis il a pu le bénir, puis voir la promesse que Dieu avait faite. Mais vous savez, quelqu'un a dit, quand on apprend à marcher sur les eaux, on n'a plus besoin de bateau. C'est ça, la vie de la foi, c'est vraiment une vie qui est croissante. C'est toujours d'apprendre toujours à vivre d'étape en étape dans la proximité de Dieu. Puis c'est ce qu'Abraham avait pu comprendre aussi. Maintenant, il a plus besoin de savoir comment les choses vont s'accomplir. On a vu ça aussi dans la vie de Jacob. Jacob, il arrangeait ça pour que ça fonctionne. Puis il arrangeait pour que Dieu puisse faire en sorte, ou lui, il voulait que les choses fonctionnent, il s'arrangeait lui-même. Et même Abraham, au début, quand il n'y avait pas de postérité, ben, sa femme lui a dit d'aller vers sa servante Agar, puis pour réussir à avoir une postérité. Et Dieu a dit, c'est pas de ça que c'est pas cette postérité-là. C'est postérité vraiment celui qui naîtrait hors temps, celui qui naîtrait d'une façon miraculeuse. Puis c'est Dieu a accompli sa promesse là. Mais Abraham, maintenant, il a appris à ce moment-là, dans cette étape-là de la vie, il a appris qu'il peut céder tout à la volonté de Dieu. Puis il n'y a pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. Dieu est capable, Dieu a la puissance de faire accomplir ses promesses. Mais maintenant, il peut agir complètement par la foi. Puis, qu'est-ce qui est vraiment ici dans la situation quand Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac, en qui il lui a promis une postérité? Mais qu'est-ce qui arrive là? Ben, il peut agir complètement par la foi, puis c'est plus son problème. C'est pas son problème d'essayer d'arranger pour que ça fonctionne. Puis Abraham sait ça. Il sait que, regarde, c'est Dieu a fait la promesse, puis il me demande d'offrir mon fils. Abraham était capable de se confier entièrement, de céder tout à la volonté de Dieu, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux faire. Puis, maintenant, ça va être le problème de Dieu d'accomplir en dépit d'avoir offert son fils, le seul qui était sa postérité. Imaginez-vous, à l'âge qu'il l'avait eu. C'était vraiment miraculeux. Puis il n'était plus question d'en avoir un autre. C'est sûr que Dieu aurait été capable de lui en donner un autre. Mais là, c'est sa postérité, c'est la promesse de Dieu qui est faite par rapport à cette postérité-là. Puis Dieu lui demande de l'offrir. Abraham, maintenant, dans cette étape-là, il cède tout à la volonté de Dieu, puis il est prêt à offrir son fils Isaac ici. Et que Dieu va, c'est Dieu maintenant qui va devoir accomplir sa promesse. Donc, c'est comme s'il disait, c'est pas mon problème à moi, c'est le problème de Dieu. C'est moi, je cède tout à sa volonté. Et vous, dans le verset 17 de Hébreux 11, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Donc, la situation semble vraiment impossible, mais il abandonne tout à Dieu. C'est Dieu qui va accomplir sa promesse. Voyez-vous, verset 19, il dit, pensez que Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Enfin, il l'a retrouvé. On sait que ce qui est arrivé, c'est pas que Isaac a été ressuscité, mais c'est que l'ange l'a arrêté. On va aller peut-être dans Genèse au chapitre 22, au verset 2 à 5. En Genèse 22, c'est un beau chapitre de la parole de Dieu. On voit la foi d'Abraham qui est prêt à aller jusqu'à aller offrir son fils. Puis les versets 2 à 5, Genèse 22, il dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Puis, voyez-vous, il y avait la foi même qu'il savait qu'il allait revenir avec Isaac parce que c'est impossible que Dieu, même qu'il le ressuscite s'il fallait, parce que Dieu avait fait des promesses de le bénir dans cette postérité-là. Puis c'est toute la postérité, c'est toute la bénédiction d'Abraham qui reposait sur Isaac, mais il est capable de faire ça. Puis il dit, et nous reviendrons. Et vous, dans Genèse 22, verset 8, il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc Abraham avance toujours dans la volonté de Dieu. Il est complètement obéissant au Seigneur. Il va faire ce que le Seigneur lui demande, mais il dit que Dieu va se pourvoir lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Puis, dans un sens, c'est comme prophétique aussi. Dieu s'est pourvu lui-même comme l'agneau. Il a épargné Isaac, mais il a envoyé son fils dans ce monde pour mourir pour nos péchés. Et vous, les versets 12 à 13, il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc ici, Abraham, c'est l'ange qui l'arrête. Puis après ça, au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Donc, il donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Puis vraiment, l'endroit où il est allé, là, c'est sur le mont Morija. Puis c'est là que le Seigneur Jésus a été offert. On dit qu'Abraham, quand il s'est avancé, il vit le lieu de loin. C'est ça. C'est comme au travers le temps. C'est comme s'il avait pu voir qu'un jour, Dieu se pourvoirait lui-même comme un agneau en envoyant son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Jean le Baptiste a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis le Seigneur Abraham, par la foi, pouvait voir jusqu'à ce point-là parce que la promesse que Dieu lui avait faite, la bénédiction que Dieu lui avait faite, ben, ça allait s'accomplir dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc Abraham, en cédant tout à la volonté de Dieu, n'a pas perdu son fils. Vous savez, ce qu'on abandonne à l'Éternel, on ne le perd pas, mais on le voit se multiplier. Qu'est-ce qu'on abandonne à l'Éternel, on ne va pas le perdre. On va voir se multiplier. C'est ça qui est arrivé avec Abraham. Dans Genèse 22, au verset 15 à 18, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, on voit qu'est-ce qu'Abraham a abandonné, a cédé à la volonté de Dieu. Eh bien, il ne l'a pas perdu, mais il l'a vu se multiplier. C'est un principe pour nous dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut voir quand Jacques nous dit qu'Abraham a été justifié par les œuvres, ben c'est ça qu'il veut dire. C'est cette œuvre-là qui a fait en sorte que nous, on croit, qu'on sait qu'Abraham avait la foi. Parce que pour aller offrir son fils, il fallait vraiment qu'il ait la foi. On sait quand Jacques, quand il dit qu'on est sauvé par les œuvres et qu'on est justifié par les œuvres, c'est pas parce qu'on est, c'est pas des bonnes œuvres. Vous savez, d'offrir son enfant, l'immoler, c'est pas une bonne œuvre qui peut nous sauver, mais c'est que ça démontre. C'est ça la différence entre Jacques puis Éphésiens. Éphésiens dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ici, Paul parle du moyen de justification qui n'est pas nos œuvres, mais qui est vraiment l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans laquelle on met notre confiance. Tandis que Jacques, lui, il nous parle de l'évidence de la justification. C'est que quand il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc, Jacques, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas, on n'est pas justifié aux yeux de Dieu par les œuvres, on est justifié aux yeux de Dieu par la foi. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice bien avant qu'il offre son fils. Mais nous, maintenant, qu'on lit ces choses-là, on voit vraiment qu'Abraham était un homme de foi parce qu'il était prêt à offrir son fils Isaac que Dieu lui avait demandé. Puis il avait tellement la foi qu'il était prêt à céder tout à la volonté de Dieu en sachant que Dieu ferait vraiment qu'est-ce qu'il avait promis. Vous savez, il n'a rien perdu. C'est un peu comme le jeune homme là, il avait 5 pains et 2 poissons. Quand il les a abandonnés au Seigneur, lui n'en a pas manqué. Lui a mangé à sa faim aussi. Mais ses pains et ses poissons ont servi à nourrir une grande foule. Mais tout le monde a été rassasié, même ce petit garçon-là qui avait donné son lunch, parce que lui aussi, il était rassasié parce qu'on a ramassé des paniers pleins des morceaux qui restaient. Donc, qu'est-ce qu'on abandonne, on cède à la volonté de Dieu, on ne va pas le perdre, mais on va le voir se multiplier. Dieu est capable de faire ça. Ça, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Donc, en conclusion, on se demande à quelle étape qu'on est, nous autres, dans notre vie chrétienne. Est-ce qu'on est à l'étape d'avoir tout abandonné pour Dieu, ou est-ce qu'on est à l'étape d'avoir tout abandonné pour Dieu, ou est-ce qu'on est à l'étape de tout abandonner? Au début, c'est tout abandonner pour avoir le salut de Dieu. Après ça, de tout abandonner nos circonstances dans les mains de Dieu, ou de trouver toute chose en Dieu, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin de le trouver en Dieu, ou d'être au point qu'on est capable de céder tout à la volonté de Dieu, peu importe ce que le Seigneur me demande, on est prêt à abandonner. Quand on dit des fois, prends ma vie, Seigneur, il y a un chant qu'on connaît bien, prends ma vie, Seigneur, elle t'appartient à jamais. C'est toute une expérience, vous savez, d'abandonner notre vie entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse faire ce qu'il va en vouloir, de céder tout à la volonté de Dieu. Vous savez, je trouve ça tellement merveilleux. Il y a des gens dans le passé qui ont tout laissé pour aller sur le champ missionnaire, pour aller rejoindre même des tribus qui les ont tués, mais ils ont réussi à les rejoindre pareil. Puis je me demande, est-ce qu'on est encore prêt à faire des sacrifices comme ça pour le Seigneur? Puis je vois Il y a des jeunes couples à l'île du Passé-Loire. Il y en a qui sont déjà partis sur le champ missionnaire. Il y en a qui sont en train d'être entraînés pour le champ missionnaire. Puis ils laissent tout, là. Ils laissent pour ça, ils laissent les vies entre les mains du Seigneur. C'est quelque chose. Mais moi, je me demande, est-ce que moi, je serais prêt à ça? Mais Éphésiens 2,10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vraiment un moment de se chercher devant le Seigneur. À quelle étape est-ce que je suis rendu dans mon expérience avec le Seigneur? C'est que je m'arrête là ce soir, puis je vous donne l'opportunité de faire des commentaires ou de poser des questions.
Je crois, Gérald, que tu es dans cette direction-là, toi. Quand je me compare, parce que je pense à toi souvent, et puis je te vois comme l'apôtre Paul. Tu vas partout où l'esprit te dirige. Alors, c'est pourquoi que nous sommes enrichis de t'entendre et de. Ce soir, c'est une grande bénédiction de comprendre ce message d'Abraham, là. C'est vraiment bon, en tout cas. Je te remercie beaucoup.
Le Seigneur est merveilleux, puis vous savez, on perd un lien avec lui, on gagne tout. Vraiment une vie excitante de suivre.
J'ajouterais que sa compagne abandonne tout aussi.
Oui, c'est ça, oui.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est la réaction d'Abraham. Au verset 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas posé de questions. Il a dit, ouais, mais qu'est-ce qui va m'arriver, moi, là, dans ce pays-là? Il abandonnait, Abraham se leva et partit. C'est simplement ça. Parce que qu'est-ce qui peut nous arriver? Ça, vivre par la foi, comme tu le disais, Véral, c'est vraiment merveilleux parce qu'on se lance dans le vide, autrement dit, comprends-tu? On se lance dans le vide, mais le Seigneur, c'est lui qui nous rattrape, c'est lui qui nous conduit, puis qui nous dirige. Des fois, on arrive dans des situations, puis c'est en tant que chrétien, on se dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça. Même si ça semble périlleux, puis ça semble dangereux, puis on est plein d'inquiétudes, on est des êtres humains, mais de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu, on se dit, j'ai hâte de voir comment est-ce que le Seigneur va tourner cette situation-là. Puis, avec le temps, ben, on voit qu'est-ce que le Seigneur fait. Mais le Seigneur, il prend soin de ses enfants. Il nous contrôle, il nous conduit, il nous dirige, et c'est ça qui est merveilleux.
Abraham,
Voilà un
il
Dieu merveilleux, fidèle, oui.
a... Oui, c'est ça. Et Abraham, c'est ça, il a vu le lieu de loin. Dans cette obéissance-là envers le Seigneur, ça lui a permis de voir le lieu de loin. Puis moi, je crois vraiment qu'il voyait, il pouvait voir par la foi le moment où le Seigneur Jésus serait l'agneau que Dieu pourvoirait pour l'Holocauste. Me faire agrandir dans la compréhension de ce que Dieu fait, ce qu'il a fait pour nous.
Des fois, on se pose des questions sur l'ange de l'Éternel, mais ici, on a un passage très clair que l'ange de l'Éternel était Dieu. Puis au verset 11, l'ange de l'Éternel arrête ou dit à Abraham de ne pas sacrifier son fils. Puis au verset 15, l'ange de l'Éternel l'appelle une seconde fois. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Fait que, il n'y a pas de doute avec ce passage-là que l'ange de l'Éternel, c'est vraiment le Seigneur Jésus.
Ça, puis quel privilège pour lui de pouvoir avoir un temps avec l'ange de l'Éternel, même si c'est quelque chose de difficile qu'il lui demande.
Lévi est muté.
Ouais, attends un petit peu, Lévi, je vais regarder pour.
Ok.
OK, tu peux-tu le mettre là?
Ok.
OK.
Merci beaucoup. C'est ça. On a lu Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Concernant le Seigneur Jésus, c'est un agneau, hein? Ici, je ne sais pas si on peut comprendre quelque chose de ça, mais c'est certain que le vrai sacrifice, ça prenait un agneau, en tout cas.
Mais quand on avance en âge, on doit se poser la question un jour, si vraiment on a tout laissé pour servir le Seigneur. Mais moi, je peux dire que des fois, je peux dire que je n'ai peut-être pas tout laissé pour servir le Seigneur. Parce que notre nature humaine est encore là. Puis on se pose des questions, on dit, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas tout laissé pour toi. À l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est un bel exemple pour nous. Et je pense aussi que tant aussi longtemps que le Seigneur nous donne un signe de vie, on doit apprendre à tout laisser pour le Seigneur, pour le suivre. Parce que le Seigneur a dit, si tu préfères d'autres que moi, ben tu n'es pas digne de me suivre. Alors, moi, je me pose la question. Peut-être que vous autres, c'est pas comme ça, là. Mais moi, je me pose la question.
C'est une question de maturité. À un moment donné, on grandit dans la foi, puis la maturité s'installe par rapport aussi à la sanctification.
C'est ça, mais quand on avance là-dedans, on trouve que ça vaut tellement la peine, tu sais, on perd
Ouais.
rien, là. Mais c'est dur pour nous autres, c'est sûr qu'on reste, on reste attaché à notre vie, on reste attaché à nos choses, puis,
Oui.
mais si on les abandonne, c'est une expérience qui est difficile pour nous autres. Mais dans l'éternité, je pense que le seul regret qu'on va avoir, c'est de ne pas savoir abandonner plus que.
Ouais. Ouais. Effectivement.
Dans Genèse 22, c'est que Abraham est allé offrir son fils. On voit que Abraham est à l'écoute de Dieu, puis il ne se pose pas de questions. C'est Genèse 22, on voit le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il me répond, tu me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays des Morichats et offre-leur dans le cas sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est quand tu analyses ça, puis tu regardes à ce verset-là, c'est de quoi de. C'est toute une épreuve que Dieu demande à Abraham. Et on voit qu'Abraham, il fait confiance à Dieu. Il ne se pose pas de questions. On voit au verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âme, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'Holocauste et partit au lieu que Dieu lui avait dit. On voit qu'Abraham n'hésite pas. De bon matin, il se lève, il prépare tout pour l'Holocauste, il s'en va, ce que Dieu lui dit, où c'est qu'il doit avoir lieu le sacrifice. Et le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Il aurait pu dire, là, c'est assez, on retourne chez nous. Et vit le lieu de loin, mais toujours par la foi. Puis le verset 5 que j'aime beaucoup, Abraham dit à ses serviteurs, là on voit la foi d'Abraham. Restez ici avec l'homme, moi le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ici, là, C'est Abraham avec Dieu seul. Isaac, il ne sait pas qu'il va être offert, il va être offert en sacrifice.
Non.
C'est entre Abraham et Dieu seul, puis nous reviendrons. C'est une parole de foi. Ce n'est pas n'importe quoi. Là. Nous reviendrons. Je trouve ça merveilleux, on voit la foi d'Abraham ici. Lui, là, il a sa foi dans le Seigneur, puis il sait que Dieu dit, il va l'accomplir. Il avait fait une promesse à Abraham, puis on a vu dans Hébreux 11, comme on a lu, que le Seigneur est puissant pour le ressusciter. Il savait que le Seigneur avait fait une promesse, puis il y avait une descendance qui avait été promise à Isaac, puis le Seigneur allait l'accomplir. Pour nous, Seigneur, il faut se fier à la parole de Dieu, il faut se fier à ce que le Seigneur dit, il faut faire confiance au Seigneur. Pour ma part, bien souvent, moi, quand j'aurais arrivé en bas de la montagne, j'aurais peut-être regardé la montagne, j'aurais retourné de bord, j'aurais dit, c'est assez, je suis capable. Mais Abraham, il a marché par la foi jusqu'au bout. J'ai toujours aimé ce passage-là, que je trouve. C'est un passage que deux fois pour nous autres comme exemple. C'est ça que je voulais ajouter là-dessus un petit peu.
Ce qu'Abraham a vécu les autres étapes, c'est ça qui l'a rendu capable de passer le test ici que Dieu lui demandait. Le Seigneur, il nous demande rien qu'on ne sera pas capable. Il nous prépare, puis c'est dans son expérience avec Dieu, il en était venu à connaître Dieu à un point qu'il savait que si Dieu l'avait promis, tout ce qu'il avait à faire, c'était de le ressusciter, puis il était capable. Et puis, il savait, comme tu dis, il savait qu'elle allait revenir avec le jeune homme.
Quand on regarde, il se leva de bon matin, il y a comme un espace de temps. Je me demande si Abraham s'est pas mis à genoux, la tête penchée, puis se rappeler toutes les promesses que Dieu y avait faites, puis supplier le Seigneur d'être capable d'accomplir ça. C'est pas dit, là, mais parce que ça s'est pas fait instantanément, il y a eu un temps. Il a dû penser à ça, là, mon fils, il
Pas
faut
dû dormir la
qu'il
nuit d'avant.
dorme, là. Certainement qu'il s'est rappelé des promesses que Dieu y avait
C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Il faut réfléchir.
Il y a eu un moment, là, qui a été intense avec Dieu, certainement, là. Il y a eu la prière ou...
Jours de voyage.
Pour qu'il se décide à partir, là, en tout cas,
Ah,
moi, il me semble que j'aurais prié, puis...
c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Il faut avoir l'assurance de la volonté de Dieu, certain.
se rappeler de toutes les promesses que Dieu y avait faites, il devait y penser, Dieu m'a promis ça, il va certainement faire quelque chose. Il avait une grande confiance, mais il a dû y penser pendant ce temps-là. Il ne s'est pas couché le soir et dormir là, comme à rien. Là.
Ça, ouais.
Il aurait pensé.
Peut-être qu'on va terminer avec une autre prière pour ceux qui doivent partir, pour qu'ils puissent partir, mais s'il y en a d'autres qui veulent continuer, on pourra continuer à jaser après. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ce temps passé dans ta parole. Seigneur, ta parole est vraiment, elle nous met au défi, Seigneur. Mais on te prie, Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi comment on peut vraiment se confier entièrement en toi, Seigneur, puis de tout abandonner, de tout céder à ta volonté. Seigneur, oui, on a laissé pour te suivre, on a tout abandonné, mais aussi, Seigneur, on a abandonné nos circonstances à toi, Seigneur. Toutes nos circonstances dans nos vies, on ne veut pas réclamer rien pour nous-mêmes, on te laisse ça entre les mains. Mais Seigneur, on trouve tout en toi. L'expérience ultime d'Abraham ici, c'est qu'après avoir cédé tout à ta volonté, même sans comprendre nécessairement, il savait avec assurance que tu allais faire quelque chose de grand, puis tu l'as fait, Seigneur. Après, tu lui as révélé des grandes choses parce qu'il était obéissant. On te remercie à toutes ces choses, Seigneur. On te demande de nous aider à apprendre puis de mettre en pratique dans nos vies. On sait qu'on a tous, Seigneur, besoin d'être remis en question. Puis c'est ça ce que ta parole fait pour nous. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.